Eh bien, pour commencer, dans la joie, puisque nous y avons été invités, je vous invite à prier avec moi. Nous ne sommes pas toujours conscients de ce privilège que nous avons, de pouvoir nous approcher de toi, de pouvoir recevoir de ta part toute la joie que tu veux nous procurer. C'est un privilège également de nous mettre maintenant à l'écoute de ta parole. Un privilège qui plus est à cause ou grâce à l'aide que tu peux nous accorder pour comprendre, pour ouvrir nos cœurs. Oui Seigneur, conduis-nous dans ce moment d'écoute. Au nom de ton Fils Jésus, nous te prions. Amen. Je fais une première lecture dans l'évangile de Matthieu, juste un verset, ce ne sera pas celle qui fera l'objet, à proprement parler, de ma prédication. Enfin, la voici. C'est Jésus qui s'adresse à ses disciples. Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Et puis, voici maintenant la lecture qui fera l'objet de notre prédication. Elle se trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 5, à partir du verset 21 jusqu'au verset 42. Jésus regagna l'autre rive en bateau et une grande foule se rassembla auprès de lui. Il était au bord de la mer. Un des chefs de la synagogue nommé Jaïros arrive. Le voyant, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille est sur le point de mourir. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Il s'en alla avec lui. Une grande foule le suivait et le pressait de toutes parts. Or, il y avait là une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans en tirer aucun avantage. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait « Si je touche ne serait-ce que ses vêtements, je serai sauvée. » Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta et elle sut dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus sut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et se mit à dire « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui disaient, « Tu vois la foule qui se presse de toutes parts et tu dis, qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Sachant ce qui lui était arrivé, la femme, tremblant de peur, vint se jeter à ses pieds et lui dit, toute la vérité. Mais il lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Il parlait encore lorsqu'arrivent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, « Ta fille est morte, pourquoi importuner encore le maître ?» Mais Jésus, qui avait surpris ces paroles, dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Et il ne laissa personne l'accompagner, si ce n'est Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Ils arrivent chez le chef de la synagogue. Là, ils voient de l'agitation, des gens qui pleurent et qui poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas mort, elle dort. » Eux se moquaient de lui. Mais lui les chasse tous, prend avec lui le père et la mère de l'enfant, ainsi que ceux qui l'accompagnaient, et il entre là où se trouvait l'enfant. Il saisit l'enfant par la main et lui dit « Talita cum », ce qui se traduit « Jeune fille, je te le dis, réveille-toi ». Et aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher. En effet, elle avait 12 ans. Ils furent saisis d'une grande stupéfaction. La vie quotidienne se charge bien souvent d'entremêler les événements, sans tenir compte de notre ordre des choses, sans tenir compte de nos préoccupations, comme dans notre lecture de ce matin, où deux récits s'interpénètrent. Mais même si ça semble le fait du hasard, je crois qu'il y a quand même plus qu'un simple concours de circonstances. Ces deux événements sont liés, et pas seulement par leur disposition dans le même chapitre de l'Évangile. Ils sont liés aussi par quelques petits détails propres à nous faire dresser l'oreille. Cette femme d'âge mûr qui vient d'être guérie, Jésus la désigne par un mot, « fille ». Dans le grec, ce mot qui est traduit par « fille » évoque pas seulement le genre, pas seulement le sexe, garçon, fille, mais la filiation, hein, fille de quelqu'un. Pour rappeler à cette femme qui est totalement exclue de la société, qu'elle a quand même des liens humains, des liens avec quelqu'un. Justement, ce même mot qui est employé dans le verset suivant pour désigner une autre fille de quelqu'un, la fille de Jaïrus, ou de Jaïros, selon les versions. Laquelle fille de Jaïrus, autre détail, a 12 ans. On ne sait pas pourquoi, à quoi ça sert lorsque l'évangéliste dit à la fin, elle avait 12 ans. Mais 12 ans, c'est pour les enfants l'âge d'entrée dans la vie sociale à l'époque. Mais 12 ans aussi, comme la durée de la maladie de celle qui va retrouver une vie sociale. Encore un effort du rédacteur pour lier ces deux histoires. De quoi réfléchir aussi sur l'aspect de l'œuvre divine dans la vie de ceux que Jésus délivre. Est-ce que ça ne serait pas, pour le rédacteur, une manière de dire que Jésus remet les gens en marche, qu'il les remet sur des rails, que ce n'est pas simplement le miracle, mais c'est aussi pour la suite, pour la vie qui va continuer. Ceci dit, ce sur quoi je veux m'arrêter ce matin, c'est sur la foi des deux personnages principaux, une foi que Jésus reconnaît. Jésus la reconnaît, c'est celle qu'il vient, chez celle qui vient de guérir, involontairement. Il la reconnaît chez le chef de la synagogue, puisque il la consolide au moment où il n'y a plus d'espoir. Alors nous allons voir dans ces deux histoires deux manifestations de foi très concrètes et j'espère nous allons mieux saisir ce qu'elles impliquent chez ces personnages du récit, mais aussi chez nous. Alors, voici donc le titre, la foi, pourquoi faire en deux mots, hein. Et j'ai mis en sous-titre un direct dans votre foi. Alors, il ne s'agit pas d'un coup de poing, hein. Il ne faut pas que ça vous reste sur l'estomac. Hein. Mais c'est des questions directes. Dans une première approche, je dirais donc que la foi de Jaïros, comme celle de cette femme, correspond à un espoir, hein, celui que Jésus a les moyens de soulager la maladie ou de sauver un enfant d'une mort qui apparaît inévitable. Et cet espoir est comblé. Ta foi t'a sauvé, c'est ce que dit Jésus à celle qu'il vient de guérir. Ici, comme assez souvent dans les évangiles, le verbe sauver est à comprendre dans le sens de guérir. Quant à la foi de Jaïros, elle obtient aussi un effet tout à fait semblable. En acceptant que Jésus continue son chemin vers sa maison, en obéissant à son exhortation à croire, eh bien, Jaïros participe au sauvetage de sa fille. En quelque sorte, la foi du Père a été honorée par une réponse qui correspond exactement à ce qu'il demandait. Mais est-ce bien la foi qui les sauve ? Au risque de surprendre, je dirais qu'à proprement parler, cette expression « la foi qui sauve » mérite quelques commentaires supplémentaires. Ça me semble un peu incomplet. Jésus dit bien « ta foi t'a sauvé », mais la foi n'est pas la cause première du salut. Alors je m'explique avec une image. Il ne faut pas confondre le moyen, hein, la main tendue de celui qui est en train de se noyer et qui a foi en celui qui va lui porter secours, avec la cause du salut, le sauveteur. Bien sûr, il importe de tendre la main, mais la foi de celui qui tend la main, c'est une cause importante mais seconde. Et l'évangéliste Marc ne dit pas autre chose quand il mentionne qu'une force est sortie du Christ et non de la foi de la malade. Et cela apparaît aussi au moment où Jésus ordonne avec autorité à la jeune fille de se lever. C'est lui qui relève la jeune fille. C'est pas la foi du Père. C'est lui qui saisit la main de l'enfant pour la relever. Une fois que je dis ça, les commentaires ne sont pas finis. J'ajouterai que pour autant, la foi n'est pas restée inactive. Il y a des effets. Bien sûr, les effets qui sont partagés avec l'action de Jésus, mais je dois remarquer que nos personnages sont conduits à faire des choses et des choses qui vont leur coûter, et cela dès le début même des récits. Pour Jaïros, le représentant autorisé du judaïsme, chef de la synagogue, faire appel à ce Jésus qui n'arrête pas de critiquer les responsables religieux, s'avouer publiquement son débiteur n'est pas très politiquement correct. Et d'ailleurs, vis-à-vis de ses collègues qui ne vont pas tarder à l'apprendre, il va se faire mal voir. Quant à cette femme, sa maladie qui est liée au sang a une dimension sacrée qui l'exclut de la sphère religieuse et sociale. Elle fait partie des intouchables, des impurs. Alors, outre les multiples déceptions du passé qu'elle doit surmonter, elle va se voir obligée de braver les interdits de la société, de sa société, en osant se mêler à la foule et en allant jusqu'à toucher Jésus. Donc la foi les pousse à faire des choses qu'ils n'avaient peut-être pas prévues au départ. Et ce n'est pas tout. Non seulement la foi a un coût immédiat, mais à mesure que les choses avancent, elle va entraîner nos personnages encore plus loin que ce qu'ils avaient prévu. Certes, pour cette femme, la guérison effective elle est immédiate. Et elle s'en rend compte tout de suite, mais ce n'est pas fini pour elle. Elle va devoir dire en présence de la foule la vérité, toute la vérité, malgré sa grande crainte. Un pas supplémentaire, pas évident. Quant à Jairos, le premier pas de foi qu'il a accompli ne suffit pas. Jésus s'est arrêté en chemin et ça a été du temps perdu pour sauver sa fille. Si bien qu'à un moment donné, on vient lui dire que c'est trop tard. Et c'est là qu'une nouvelle épreuve s'impose. Jésus dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement. » Facile à dire. Que Jésus soit arrivé à guérir, ça pouvait sembler déjà possible aux plus sceptiques, puisqu'il y avait déjà eu des guérisons. Il l'avait déjà fait. Mais qu'il se montre capable de vaincre même la mort, c'était plus difficile. Ici, la foi a pour conséquence une réponse à la prière, mais dont elle entraîne une évolution sur la personne qui fait cette prière. Une chose importante à retenir, la prière ne nous laisse pas indemnes. À propos de la qualité de foi de nos personnages, avant d'aller plus loin, juste une question intéressante. Est-ce qu'on peut parler d'une forte conviction ou d'une tentative de la dernière chance pour ces personnages? Si ça ne fait pas de bien, ça ne fait pas du mal. Alors après tout, on peut y aller. La question mérite bien un détour, car au premier abord, ni l'un ni l'autre de nos personnages ne fait figure de premier de la classe. En tant que chef de la synagogue, Jairos incarne cette opposition que Jésus a connue durant tout son ministère. C'est un gardien du temple, c'est un gardien de la tradition. Ce n'est pas un bon point pour lui. Et puis, c'est vrai, il vient parce qu'il n'a pas le choix. Personne n'a de solution. Sa fille est à la dernière extrémité. Et c'est de plus en plus urgent. Et que dire de la foi de cette femme? Que représente Jésus pour elle, sinon un médecin ou un guérisseur de plus que ceux qu'elle a consultés, qui peut agir par simple contact, si je touche ne serait-ce que ses vêtements, comme par magie. Et en plus, au prix d'une transgression de la loi. Et en plus, elle compte le faire sans que Jésus s'en rende compte, un peu comme pour lui dérober quelque chose. La différence, c'est qu'il s'agit du Fils de Dieu, me direz-vous, bien sûr, mais elle avait quand même sans doute essayé beaucoup d'autres médecins, guérisseurs, et elle venait là en désespoir de cause. Alors, foi ou superstition ? Je crois que peut-être que je suis allé un peu loin en supposant qu'il n'avait pas beaucoup de foi. Mais après tout, peu importe, l'une n'empêche pas l'autre. La qualité de foi de nos personnages ne plaide peut-être pas en faveur d'un exaucement ? Eh bien, je dirais qu'à cela ne tienne. Jésus exauce tout de même. Je dirais qu'il ne s'arrête pas à la pureté spirituelle de la démarche. Et ce qui me semble le plus extraordinaire, c'est qu'il exerce sa miséricorde pour des gens qui souffrent et qui n'ont rien d'autre à faire valoir que leur souffrance. Peut-être nous, on pourrait ajouter qu'ils n'ont rien d'autre à faire valoir que son amour à lui. Mais c'est implicite. Plutôt que de la valeur de la foi de l'un ou de l'autre, je crois qu'il vaut mieux parler, bien, dans cette histoire, du privilège d'une situation. Le Messie se trouve là, à ce moment-là, et il manifeste sa bonté autour de lui, avec ceux qui lui font appel. Certes, à Paris, à partir des délivrances accordées, la foi va devoir se trouver un contenu plus étoffé, à la lumière de l'enseignement de Jésus. Mais dans l'immédiat, ce dernier, Jésus, n'ignore pas la main tendue vers lui, sous prétexte qu'elle est mal tendue. Alors pour terminer, nous allons en venir à présent à notre situation et je m'en tiendrai simplement à deux questions que notre lecture pose, à des questions directes sur notre foi, sans un nœud, notre foi. À propos de nos conceptions sur la foi, nous avons des normes bien établies sur ce qu'elle doit être, sur son contenu. Un contenu qui reste important, et je pense qu'il est bon d'y rester fidèle. Néanmoins, ce souci de précision, de fidélité au texte auquel nous sommes attachés, ne doit pas nous pousser à juger trop vite ce que nous pourrions trouver un peu trop naïf, peut-être même quelque peu superstitieux, dans leur manière de faire appel au Seigneur. Je crois que Jésus ici, dans notre cas, est resté lié, dans le cas des deux personnages, est resté libre à l'égard de tout ça. Il a d'abord accordé la délivrance, même si dans un deuxième temps, il a pu délivrer son enseignement. Alors, si le Fils de Dieu exauce des naïfs, des superstitieux, pourquoi ? Nous ne nous en réjouirions pas. D'ailleurs, notre propre foi est-elle absolument pure ? Quelles sont les motivations ou les intérêts qui nous poussent à nous approcher du Seigneur ? Ces intérêts sont-ils toujours conformes à ce que Dieu veut ? Le fils prodigue de la parabole, lorsqu'il commence à décider son retour, c'est bien parce qu'il a faim. N'y a-t-il pas peut-être quelques restes, c'est un grand mot, quelques restes d'idolâtrie dans les représentations que nous nous faisons de Dieu, même bien sûr si elles n'ont pas la forme d'images taillées, Autrement dit, le Seigneur n'aurait-il plus besoin d'exercer sa grâce à notre égard? Quant à l'autre question, eh bien la voici. Est-ce que notre foi nous conduit à faire des pas supplémentaires, comme pour nos personnages? Et justement, ces deux récits montrent bien que la foi, eh bien, c'est quelque chose qui nous entraîne un peu plus loin. Je crois justement que dans ce domaine, la tentation principale, eh bien, elle consiste à nous reposer sur nos propres lauriers ou sur nos habitudes. Mais la vie chrétienne, c'est plus une marche qu'un stationnement. On entend parler parfois de la foi qui déplace les montagnes, comme un grain de moutarde, disait Jésus. C'est encourageant. Mais ici, justement, c'est pas seulement la foi qui déplace des montagnes, c'est la foi qui déplace les fidèles. La foi agit sur les fidèles eux-mêmes. C'est là que se trouve la question directe. Est-ce que notre foi nous déplace? Quel effet a-t-elle sur nos choix, sur notre vie de tous les jours, sur nos habitudes, sur nos relations avec les autres, avec ceux que nous côtoyons au travail ou même dans l'Église? Qu'est-ce que notre foi a changé? Ou mieux encore, qu'est-ce qu'elle doit changer encore? Nous qui nous voulons à l'écoute du Seigneur, nous devrions en avoir sans doute une certaine idée. Les pas de foi demandés à Jaïros et à la femme malade pouvaient sembler bien délicats, c'est vrai. Et peut-être les pas que nous pouvons être appelés à accomplir ne sont pas faciles. Mais je terminerai avec une bonne nouvelle. Ces pas se sont révélés être des pas de libération pour cette femme, pour Jaïrus et sa fille et sa famille. Ces pas sont des pas de libération. Et Dieu sait que parfois nous en avons bien besoin de libération. Alors dans notre lecture, c'est Jésus qui invite à faire ces pas de plus. C'est lui qui accompagne ce cheminement. Et tant mieux. Alors donc, pourquoi ne pas lui dire tout simplement « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » C'est ce que nous pourrons lui dire, c'est ce que nous pouvons lui dire. Qu'il vienne au secours de notre incrédulité. Amen.